décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 18, salut moi-même, je suis tout seul. Grand week-end de mai et j'étais abandonné par Meg et Manu. Nicolas ne peut pas venir, donc je vais tenter de faire le podcast de cette semaine tout seul, en espérant que ça marche et que j'arrive à garder le rythme. Manu n'est pas là, mais il a quand même fait une sélection d'articles, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4. Telos, les makerspaces, un petit coin de paradis technologique, point d'interrogation, un article de Monique Dagneau. Il s'agit d'un article qui en gros est là surtout pour présenter la sortie d'un livre qui s'appelle Makers, enquête sur les laboratoires du changement social, écrit par Isabelle Berby-Hoffmann, Marie-Christine Bureau et Michel Lallemand. 20 minutes online, Cambridge Analytica annonce son sabordage, un article de la rédaction. Donc on en a beaucoup parlé ces dernières semaines avec le scandale lié à Cambridge Analytica. Donc ils sont sur le grill depuis un bon moment et évidemment leur activité est devenue totalement impossible, donc ils ont décidé de fermer boutique. Bon, on ne doute pas qu'ils reviennent sous une autre forme sans doute. World Socialist Website, il y a 25 ans, le code source du World Wide Web était rendu public. Un article de la rédaction. Ça revient sur un anniversaire qui est en 1993, il y avait le code informatique qui permet de faire tourner le web, hein, donc ce qui est en gros une fraction d'Internet. Donc c'est Tim Berners-Lee, qu'on a évoqué ici plusieurs fois, qui à l'époque avait motivé le CERN qui hébergeait ce projet, de le diffuser sous licence libre. Et ce que dit l'article, c'est que ça avait contribué à son explosion, hein, et le fait que beaucoup d'acteurs puissent s'en emparer, développer leur propre serveur et que Internet puisse se monter de cette façon-là. Le monde informatique, taxation des GAFA, pas de consensus européen en vue, un article de Nicolas Sert. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Hein. Ça fait un petit bout de temps qu'on sent qu'au niveau européen, il y a une vraie volonté de mettre les GAFAM au pas, et notamment de leur faire payer leurs impôts. Là, il y a eu des discussions et c'est un revirement de situation. Alors, on savait que certains pays, notamment ceux qui font leur beurre en faisant dumping fiscal, étaient évidemment contre. Mais il y a eu un ensemble de pays qui ont changé leur fusil d'épaule, notamment la Suède, la Finlande et le Danemark. Et par ailleurs, la Grande-Bretagne qui est elle, carrément tournée kazakh et l'Allemagne qui donne des signes de faiblesse. La France a été assez énervée par ce truc-là. Il semblerait que sur ce sujet-là, nos représentants sont en pointe et veulent vraiment taxer tout ça. Et en tout cas, donc là, manifestement, ça prend une mauvaise tournure. Donc voilà. Donc le sujet de la semaine dont je voulais parler, c'est la question de demander ou pas la permission. Alors, c'est quelque chose qui est important dans les licences libres et dans la façon dont on les applique. Alors je rappelle, une licence libre, c'est un texte juridique qu'on va appliquer sur une œuvre, le code informatique étant couvert par le droit d'auteur, et qui va donner un certain nombre de libertés, et notamment la liberté d'utiliser le code pour ce qu'on veut, implicitement sans avoir à demander l'autorisation à l'auteur de le faire. Ça peut paraître anodin, mais en fait, il y a pas mal de conséquences à ça. Et la première, c'est que ça simplifie énormément les choses quand on veut monter un projet quelconque. Ça les rend même possibles. C'est-à-dire que dans un logiciel qui va évoluer au fil du temps, etc., on va avoir un grand nombre d'auteurs, d'informaticiens, de codeurs qui vont se relayer. Et au bout de peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a des logiciels qui ont des durées de vie extrêmement longues. C'est potentiellement des centaines ou des milliers de personnes qui sont passées dessus. Donc s'il fallait obtenir l'autorisation de tout ce monde-là, ben, ce serait compliqué. Et puis quand on a des logiciels, souvent ils sont développés avec un ensemble de briques, on va prendre d'autres logiciels et les assembler ensemble. Une distribution GNU/Linux, donc le système d'exploitation qui va faire tourner un ordinateur libre, lui c'est des milliers de logiciels qui sont mis ensemble, et si on imagine qu'il y a des tonnes de développeurs pour des milliers de logiciels, ce serait tout à fait impossible de demander l'autorisation à tout le monde, et donc pouvoir faire sans autorisation, c'est plus que simplificateur, c'est également quelque chose qui rend possible certains projets, et même un grand nombre de projets. Un des intérêts qu'il y a derrière, c'est que quand on autorise à faire ce qu'on veut et sans demander l'autorisation, bien les gens peuvent s'approprier le code pour faire ce qu'ils veulent, et donc notamment des tas de choses auxquelles les auteurs originaux n'ont pas pensé ou ne souhaitent pas que ce soit utilisé. Et donc du coup, on a cette liberté, cette facilité à faire et à faire différemment de ce qui a pu être fait jusqu'à maintenant. Donc ça va vraiment dans l'idée de plus de créativité, de plus de souplesse, alors qu'un éditeur qui va verrouiller son code ou donner des autorisations dans un sens ou dans un autre va être limité par sa propre stratégie, par le fait qu'il ne peut pas être partout et qu'il n'aura pas l'imagination ou qu'il ne croira pas à un projet. Dans notre revue de presse, on avait la question de la libération du code du World Wide Web. C'est la bonne illustration, ça a été beaucoup plus vite et beaucoup plus loin en partageant le code. Et l'autre chose que je trouve intéressante et qu'on mentionne finalement assez peu, c'est que ça fige dans le temps, en fait, la volonté de l'auteur. C'est-à-dire qu'un auteur, que ce soit pour du code informatique ou une œuvre, hein, peu importe, mais qui mettrait son travail sous licence libre, cette licence, elle est appliquée à la version, à la copie de l'œuvre au moment où ça a été fait. Et là-dessus, il peut revenir en arrière, mais disons que c'est un peu compliqué. Alors, dans le droit français notamment, il y a un droit moral qui est inaliénable. Ça veut dire que l'auteur peut dire « Non, j'ai changé d'avis, vous n'avez plus le droit de faire ceci, cela. » Mais dès lors qu'on a une notion de droit patrimonial, l'auteur peut faire jouer son droit moral à condition de dédommager les gens auprès de qui il aurait contractualisé le droit à exploiter son œuvre. Et par rapport au libre, on peut avoir cette interprétation qui est la plus crédible, même si elle n'a jamais été validée à ma connaissance par une jurisprudence, qui est de dire dès lors que l'auteur met une licence libre, ça veut dire qu'il autorise par défaut l'exploitation, notamment commerciale. Et donc s'il voulait revenir en arrière a posteriori, il faudrait qu'il dédommage tout le monde, ça va être vite impossible à faire. Et donc du coup, on a comme ça une œuvre qui se détache de son auteur, et il y a cette idée de désacralisation de l'auteur. Car aujourd'hui, on est dans un système hein, où l'auteur est une sorte de dieu, tout en disant que ça va dans le sens de sa reconnaissance, etc. Mais en fait, c'est bien souvent une arme à double tranchant. Dans le domaine culturel notamment, les gens, très naturellement, s'approprient la culture, s'approprient les choses, font des remixes en musique, des mash-ups, des détournements, les gens font des fanfictions, font du jeu de rôle, peuvent se déguiser sous la forme de leur héros favori, en discutent, etc. Et donc tout ça, c'est naturel, c'est comme ça qu'on s'approprie la culture. Et on voit de temps en temps des limites, c'est-à-dire que les ayants droit vont autoriser un petit peu, mais pas trop. À certaines époques, ils ont voulu essayer de bloquer, puis ils se sont rendus compte que c'était pas très bon pour le commerce. Mais finalement, on perd pas mal de liberté par rapport à ça. Et la liberté du public s'efface très souvent face à l'auteur sacré, qui finalement est une bonne façon de maîtriser l'œuvre et de s'approprier son interprétation, sa libre interprétation. Donc il y a des exemples que moi je trouve assez parlants. Il y a par exemple Axanar. Donc Axanar, c'est une fanfiction de très très haut niveau dans le monde de Star Trek. Donc pour ceux qui connaissent pas Star Trek, enfin vous connaissez au moins un petit peu, c'est passé à la télé il y a fort longtemps, mais c'est un univers de science-fiction qui est assez intéressant parce qu'il est doublement utopique, c'est-à-dire que l'auteur qui l'avait créé dans les années 60 avait imaginé un avenir où l'humanité cesserait d'être en guerre, et c'est une série qui a connu un succès énorme au niveau du public, mais elle avait une base de fans extrêmement forte. Et pendant presque 10 ans après que la série soit arrêtée, elle n'a pas été très longue, et tas de gens ont écrit des livres et des choses comme ça, et ont continué à faire vivre cet univers indépendamment des ayants droit qui ne misaient pas beaucoup dessus, et le truc a continué à vivre. Et il y a quelques années, il y a eu une sorte de reboot, donc ils ont repris l'univers, ils ont recommencé à zéro, et ce reboot ne plaît pas à tous les fans. Et donc on a aux États-Unis un grand fan qui a réussi à collecter quelques millions de dollars pour faire une fanfiction, et une fanfiction d'un niveau assez incroyable en pouvant embaucher notamment d'anciens comédiens qui avaient joué dans la série. Et du coup, évidemment, il s'est pris les studios qui lui ont autorisé à faire quelque chose, mais beaucoup plus petit que ce qu'il voulait. Évidemment, lui entretient l'univers Star Trek d'avant le reboot, de celui que les fans apprécient. On voit comment il peut y avoir un conflit entre l'appropriation de la culture d'un côté, les ayants droit qui veulent le faire tourner dans une autre direction. Il y a un autre exemple, c'est Frank Zappa, qui aurait dit sur son lit de mort, c'est pas vraiment sûr, jouez ma musique, que vous soyez musicien ou pas, jouez ma musique, et qui a été compris comme une invitation à la jouer. C'était quelqu'un qui était très très attaché à la liberté artistique, et il y a une guerre entre les gens qui s'approprie sa musique et la société de gestion des droits qui est gérée par sa femme derrière. Et on s'aperçoit que un auteur, c'est compliqué pour lui, sauf à passer par une licence libre, d'autoriser comme ça sa musique à être diffusée. La raison pour laquelle c'est intéressant de voir cette désacralisation de l'auteur, c'est que la propriété intellectuelle est un mouvement qui se développe depuis maintenant un paquet d'années. Il y avait un journaliste qui s'appelle Florent Latrive qui avait alerté là-dessus et qui se fait largement au détriment des droits du public. Il y a un texte assez connu qui est de Victor Hugo à l'époque où la gestion moderne des droits d'auteur a été mise en place et qui avait dit le droit du public devrait passer avant le droit des auteurs. Et aujourd'hui, on parle finalement très très peu de cette question des droits du public. On voit que cette idée de ne pas demander la permission, de dire vas-y, fais-le et tout ce que tu peux en faire m'échappe, va évidemment dans une logique totalement inverse à cette question du contrôle. Si on revient sur la question de l'informatique et des licences libres, il y a un des arguments qui revient souvent, c'est de dire oui, mais c'est juridiquement complexe. Des licences libres, il y en a un certain nombre, sans doute trop, mais elles sont relativement standardisées. C'est-à-dire que les plus courantes, on peut finir par les connaître. Alors, ça, c'est pas hyper simple, évidemment, c'est du droit, mais tout le monde va utiliser un certain nombre de licences. Il y en a peut-être une dizaine qui sont utilisées couramment, et on peut se dire qu'on peut monter en compétence là-dessus et avoir une idée de comment ça marche. Face à ça, dans le monde propriétaire, on a les CGU, les conditions d'utilisation, celles qu'on clique en bas de l'article quand on installe un logiciel ou qu'on va sur un nouveau service, et qui sont toutes différentes, et qui sont interminables, et qui ont potentiellement des clauses illégales, parce que une société peut se dire que ça lui coûte pas grand-chose de mettre une clause illégale. Ça va écarter un certain nombre de gens. Et puis, si on veut leur prouver qu'ils ont tort, il faudra les traîner au tribunal. Il va falloir avoir les moyens. Et c'est un filtre économique pour empêcher le tout venant d'avoir finalement accès à ses droits. Et quand on va parler des complexités des licences libres, les différentes licences propriétaires, elles sont, s'il y en a une foule, c'est fait pour pas être compris ou c'est fait pour favoriser une politique commerciale. Enfin, on vit sur une sorte de fiction. Dans l'affaire de Cambridge Analytica qu'on mentionnait pendant la revue de presse, il s'est avéré que Facebook a admis à un moment dans toutes les discussions qu'il ne lisait pas et ne connaissait pas les conditions d'utilisation des boîtes qui récupéraient ces données, à qui donner les données. L'autre point, c'est que l'exercice de la surveillance dans le monde propriétaire, c'est lourd. Gérer des licences, ça a un coût. Parce qu'il faut s'assurer qu'on est bien un jour, que un tel qui n'a pas installé le logiciel sans demander l'autorisation, etc. Manu n'est pas là, mais il aime bien cet exemple. Hein, c'est qu'il y a eu, il y a quelques années, des DSI de très grosses boîtes qui se sont plaints d'Oracle. Donc Oracle, c'est la grosse machine en termes de base de données. Parce que dans leur licence, il est dit qu'ils peuvent venir pour faire un audit et que les exigences en termes d'informations à donner sont telles que ça représente plusieurs personnes à temps plein et qu'en gros, ça avait coûté à ces entreprises-là une véritable fortune pour donner satisfaction à leurs fournisseurs. Un autre point qu'on peut avoir dans le monde propriétaire et qui freine cette idée de demander l'autorisation, c'est tout ce qui est brevet. On l'a répété souvent dans ce podcast, hein, en Europe, les brevets logiciels sont censés ne pas être légaux, et c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et on voit hors Europe qu'il s'est monté ce qu'on appelle les pools de brevets, c'est-à-dire des associations de grosses entreprises ou de plus petites qui mettent tous leurs brevets ensemble pour pouvoir faire masse et pour pouvoir négocier les uns avec les autres. Il y a tellement de brevets dans tous les sens et que en fait c'est là encore ingérable, hein, c'est comme les multiples conditions d'utilisation qu'on n'arrive pas à lire. On ne peut pas savoir ou difficilement savoir si on va mettre les pieds sur quelque chose qui a été breveté, sachant qu'il y a des tas de gens qui brevettent des trucs qui sont totalement imbrevetables, mais là encore, il faut partir dans une procédure pour pouvoir le faire valoir. Et donc du coup, on se retrouve dans une situation où l'auteur et le génial inventeur, comme la formule qu'on aime bien utiliser, finalement, sa propriété intellectuelle, elle est complètement noyée dans un rapport de force, où finalement, ce sont que les gros qui ont les moyens de mettre l'argent sur la table et de se payer un nombre de brevets suffisant pour que l'adversaire soit lui-même en train d'empiéter les brevets, qui finalement ramasse la mise. Et là encore, on se retrouve avec un système où ce sont les plus lourds et les plus gros qui dominent et où la propriété intellectuelle, le brevet, etc., qui est censé protéger, au final devient un outil d'asservissement. On a également, contre cette facilité de ne pas demander la permission, la notion de la protection par la marque. Et c'est quelque chose qui a tout à fait cours dans le monde du libre, hein, puisque la plupart des logiciels ou des projets déposent leur marque. Le code est libre, mais la marque ne l'est pas. Firefox est assez connu pour avoir beaucoup joué avec ça. On se rappelle aussi qu'Apple avait joué avec les designs, hein, quand il y avait eu des concurrents pour l'iPad, en disant « non, mais voilà, telle forme, etc., c'est mon identité ». Et donc, on a tout un terrain d'enjeu sur la question de la notoriété. Alors, ce qui me fait penser à une petite vidéo nous avions fait avec Mag et Manu pour parler des DRM dans les e-books notamment. Et on a fait une petite vidéo comme ça et qui est passée sur le site de l'April et quelqu'un l'a mise sur YouTube, chose que nous n'avions pas faite. Et de fait, ça a donné un bon boost à cette vidéo. Des gens m'en ont parlé. Mais en même temps, en faisant ça, cette personne a finalement donné à YouTube des droits de revente, de relicenciation de notre vidéo sans nous en demander l'autorisation, c'est-à-dire en ne respectant pas la licence libre. Et donc ça démontre comment, pour pouvoir être connu, il faut finalement céder un certain nombre de droits, et notamment des droits d'auteur, pour pouvoir être visible auprès du public. C'est-à-dire qu'on a des YouTube, des Facebook, d'autres canaux qui ont cette force, cette puissance, cette capacité à toucher du monde. C'est hein, la question, c'est l'image du tuyau, hein, qui tient le tuyau qui va permettre d'arroser un maximum de personnes. Et quand on veut exister sur ces réseaux-là, eh ben, il faut payer, au moins en cédant son droit d'auteur. L'avantage qu'il y a avec un YouTube ou un Facebook, c'est qu'ils n'interdisent pas aux gens d'exploiter leur travail ailleurs. Si on va chez un éditeur classique ou dans la presse, etc., c'est pas nécessairement le cas. On voit qu'on va être contraint par un système qui va nous interdire de faire ce qu'on veut de l'œuvre, et les gens qui vont pouvoir la lire ne feront pas non plus ce qu'ils en veulent. Voilà, donc c'est une sorte de tour d'horizon qui montre que bah, finalement, pouvoir faire ce qu'on veut d'une œuvre sans demander l'autorisation, ça implique énormément de choses et ça nécessite finalement de l'indépendance. Par rapport à cette dernière question hein, de la notoriété et du contrôle des tuyaux, démontre également tout l'intérêt qu'il y a à avoir des médias qu'on puisse contrôler soi-même, comme par exemple des radios locales qui diffuseraient un podcast sur les libertés informatiques en général, là, et qu'il est très important de partager entre soi pour pouvoir exister en dehors de ces systèmes-là et pour pouvoir exercer nos droits à faire sans demander la permission. J'espère que ce long monologue n'aura pas été trop fatigant. On se retrouve la semaine prochaine avec un peu plus de monde derrière le micro.